Je pensais que j'allais sur le côté, mais le micro, ça fait bizarre. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis dépendant.
Salut Pierre.
Ce matin, je suis arrivé à 8h30. L'endroit était complètement vide. Et moi, j'ai jamais été à la fac. Et j'étais assez ému. Tout à coup, j'avais envie d'aller à la fac. Et je me suis baladé dans les couloirs. C'était un peu ambiance shining. Il y a des très bons couloirs complètement vides. Et du coup, ça m'a fait penser à mon frère, qui, je crois, a découvert la drogue à la fac, et qui est mort de cette maladie en 98. Avec qui j'ai beaucoup consommé, et de qui j'étais très proche. Et je dois dire que, effectivement, sa mort a joué un grand rôle dans ma capitulation. C'est-à-dire, il est vraiment mort d'une mort absolument standard, psychomoyen. Il a fait une OD dans une salisette sur le boulevard Sébastopol, un truc vraiment hyper glauque. Et c'est là que j'ai commencé à capituler. Mais je me souviens quand même qu'on m'a prévenu à 8... Moi, j'étais en manque ce jour-là. On m'a prévenu à 8h du matin qu'il avait fait une OD dans une salisette. Et le premier truc que j'ai fait, c'est de consommer. Donc, sa mort a été un élément décisif dans ma capitulation, mais ça n'a pas du tout été immédiat. Ça a mis encore... 4 ans après. Souvent je pense à ce truc de commencer complètement ouf, de penser que son frère, pour qui on a beaucoup d'affection, de qui on est très proche, vient de mourir d'une OD et qu'on continue à se défoncer. Maintenant, ça me paraît évidemment complètement absurde. Surtout le truc où on vient de te le dire au téléphone et que le premier truc que tu fais, c'est de consommer. Mais voilà, c'est la maladie, c'est le truc de l'addiction forcenée et tout ça. Je ferme ce chapitre, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser à lui ce matin dans cet endroit. Lui, il était étudiant, moi j'ai jamais été étudiant. Alors moi, j'ai capitulé à 30 ans une première fois. Mais maintenant, je peux le dire, j'avais capitulé sur la consommation de produits modifiant le comportement, mais sur rien d'autre. Et comme on entend souvent dans les salles, moi je pensais que comme j'avais réussi avec votre aide, hein, j'avais jamais réussi tout seul. Alors que, je fais une toute petite parenthèse, mes 4 dernières années de conso, c'était des années de... essentiellement de tentatives d'arrêt, en fait. Je me rappelle, mes 4 dernières années de conso, je faisais que tenter d'arrêter de consommer, rechuter, tenter d'arrêter de consommer, rechuter. C'est que quand je vous ai rencontré que j'ai réussi à rester clean. Mais j'étais tellement pressé de reprendre ma vie en main, et la mort de mon frère et tout ça, j'avais tellement l'impression que j'étais au bord de perdre ma vie, que j'ai été très très pressé de tout de suite retrouver une place sociale, du taf, une compagne, un truc de construction un peu forcené. Et tous les autres outils que me proposait le programme ne m'intéressaient pas beaucoup. Pour tout vous dire, je n'en avais rien à foutre. Et j'étais dans un truc qui ressemble finalement un peu à ce qu'on fait quand on consomme, c'est-à-dire que je faisais pas du tout de deuxième étape. Je demandais pas d'aide. Je pensais vraiment que j'avais été sommé du truc et que maintenant la vie allait commencer. Et en plus, j'allais assez bien à ce moment-là. Enfin, je veux dire, j'avais beaucoup d'énergie, je faisais plein de trucs, beaucoup de taf. Et puis après... je vais essayer de faire vite, j'ai rechuté à 15 ans clean. Alors comment je suis arrivé à cette rechute? Bon, en gros, je peux vous le dire, aujourd'hui, je pense vraiment que si j'avais été un peu plus impliqué de façon simple dans le programme, c'est-à-dire avoir un lien un peu plus étroit avec mon parrain, partager un peu plus honnêtement, un peu plus régulièrement, être en lien avec les étapes, même de façon un peu sporadique, parce que ce n'était pas vraiment le cas. Si j'étais arrivé à ma quatrième, mais j'avais fait, je crois, 5 départs de quatrième étape, puis je la laissais de côté, puis je revenais après, 2 ans après, puis tout ce que j'avais écrit, je me disais, ça ne va pas du tout, et je recommençais. Et d'ailleurs, à l'époque, je pensais vraiment que la quatrième étape, c'était, ça allait être mon grand œuvre, quoi. J'avais pas du tout compris comment ça fonctionnait, les étapes. Et alors, j'étais hyper méticuleux, complètement obsessionnel, mais surtout, je branlais rien, en fait. Je veux dire, c'est-à-dire, j'y pensais beaucoup, mais je produisais pas beaucoup d'écrits. Je pensais beaucoup aux méthodes. Je me disais, non, moi, je vais faire comme ça. Je lisais des trucs et tout. Pas beaucoup de littérature, non, tous les trucs de l'extérieur. Et puis, toute la satisfaction un peu égotique, je peux le dire aujourd'hui, que je retrouvais au début. C'est-à-dire que je sortais de tout. J'ai commencé à consommer à 12-13 ans, jusqu'à 30 ans. Et j'avais tellement l'impression de m'être chié dessus toute ma vie, de toute ma jeune vie, que j'avais vraiment besoin de trouver de l'estime de moi. Et ça passait vachement par faire. Il fallait que je fasse des trucs et que je me prouve à moi-même que j'étais capable de faire. Et en fait, maintenant, je me rends compte que j'avais vachement besoin du regard des autres et d'une place sociale et d'un truc. Et ça a marché un certain temps. Mais après, quand le côté professionnel s'est mis à se péter la gueule et que je me suis mis à devoir gagner ma vie en faisant des tafs qui ne correspondaient plus à mon standard, le truc qui m'apportait un peu de réconfort. Je suis artiste, quand je ne bossais pas dans ma partie, je le vivais assez mal. Et puis je commençais à avoir du temps, à être père, et je vous avoue que je ne le partageais pas du tout en réunion. Comme j'en souffrais beaucoup, hein, j'avais honte. Je gagnais très peu de blé, j'étais vraiment dans un truc de difficultés financières permanentes, j'étais toujours, comme certains d'entre nous connaissent ça, j'étais toujours en train de gérer la catastrophe financière. J'ai été élevé comme ça, dans une famille où, par exemple, nous dans ma famille, il y avait du blé, hein, mais tout à coup il n'y en avait plus. Et on connaissait le nom des huissiers, le prénom. Monsieur Jean, Monsieur Truc, quand ils rentraient, ils venaient tous les 3 mois, ils faisaient la liste de tout, on leur faisait le café et tout, bon, c'était une ambiance comme ça. Mon père, il disait toujours, les impôts, faut pas avoir peur, faut juste négocier. Donc il a passé sa vie, quand il est mort, pour vous dire, j'ai eu un commandement de payer, c'était encore des francs, de 100 000 francs sur ma porte, de dette aux impôts, sous 24 heures. Parce que lui, il jouait toujours avec ça, avec le... Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment hérité de ce truc-là, sauf que moi, je ne gagnais pas 100 000 balles. Moi, je gagnais 800 balles, mais mes 800 balles, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'étais toujours en permanence dans une merde financière. Et je le suis encore aujourd'hui. Heureusement, c'est moins souffrant, c'est pas un truc aussi extrême. Mais à cette période-là, le clean, j'étais là-dedans. Et je commençais à avoir près de 10 ans clean, j'étais père, et j'avais vachement honte de ce truc-là, en fait. Tellement honte que même moi, je me le formulais qu'à moitié. J'avais l'impression. Et puis j'avais ce truc de parent aussi. Je me devais d'être... de rentrer du blé parce que j'avais des mômes. Je sais pas si pour certains d'entre vous, c'était déjà arrivé. Et clean, c'était vraiment humiliant, je me rappelle. Une fois, je suis allé chercher mon fils à la crèche. Je suis allé tirer du cash pour lui acheter un croissant ou un truc. Et le truc a bouffé ma carte. Je me rappelle que j'étais complètement traumatisé. 2 jours après, j'étais prêt à faire n'importe quoi, ramasser des patates. C'était vraiment... ça m'allait pas du tout. Alors que c'était... Bah, par exemple, c'est un truc que j'aurais dû partager, que j'aurais dû faire redescendre, mais je ne l'ai pas partagé. Et je pense vraiment que quand on est clean et qu'on commence à avoir un peu de temps, il n'y a plus de ce qu'on entend ici parfois, des problèmes de luxe. Ça n'existe pas, les problèmes de luxe. OK. Les problèmes de luxe, c'est l'existence, en fait. L'existence est remplie de problèmes. Le problème, ce n'est pas les problèmes, c'est comment on voit les problèmes et ce qu'on en fait. Moi, j'ai une chier de problèmes aujourd'hui. Mais bon, je me démerde avec, ce n'est pas un drame. Et d'ailleurs, le fait d'accepter que j'ai cette chier de problèmes dans plein de domaines, dont aucun n'est vraiment dramatique, hein, et d'accepter que c'est la place que je leur fais dans ma tronche, ça me rapproche vachement de vous, de NA, des autres membres de NA, et même, je dirais, de l'humanité, parce que pendant longtemps, je faisais le malin, j'étais différent. C'est vachement plus confortable maintenant. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'être différent, j'ai l'impression de savoir un petit peu mieux qui je suis. Je ne vous dis pas que je sais qui je suis, mais j'ai avancé sur la question. Bon, dans un grand moment de déprime, comme ça, j'ai fini par rechuter dans un boulot vraiment merdique qui était vraiment mon fond. J'ai vécu un fond clean. Je me suis retrouvé dans une boîte, une boîte d'orfèvrerie avec une blouse bleue à faire l'homme à tout faire parce que c'était payé en cash et que ça me faisait des rentrées quotidiennes. Donc j'avais l'impression que le blé rentrait. Je suis compositeur. J'étais pas hyper heureux, quoi. Il y avait un petit gap entre ce que j'étais censé faire, ce pourquoi j'ai commencé à faire de la musique très jeune, j'ai toujours fait ça et tout. C'est pas une. Je me suis pas réveillé compositeur un matin, hein. C'était vraiment mon métier depuis toujours. Et bon voilà, à ce moment-là, j'ai rechuté. Je peux juste vous dire comment ça a commencé, l'obsession. J'ai rechuté avec des produits qu'on vend en pharmacie, pas avec mes produits de choix de quand j'étais jeune, j'étais trop vieux pour faire ça et tout ça. Si l'occasion s'était présentée, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas cherché à créer cette occasion. Mais je me rappelle, ça, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps avant, un an et demi ou deux ans avant, à 8 ans clean, à un moment où j'étais vraiment très déprimé et pas du tout satisfait de mon existence, j'ai eu une rage de dents énorme. J'ai plus beaucoup de dents, mais là, il m'en restait encore un peu à ce moment-là. Et on m'a prescrit un opiacé. Je l'ai dit, hein, je me rappelle, je l'avais dit à mon parrain à l'époque et je l'avais même dit en réunion. Et j'ai pris cet opiacé, c'était aux urgences, en catastrophe, parce que le soir, je ne sais plus laquelle, il y a une urgence dentaire hyper funky à Paris, je crois que c'est à la salle P, tu peux y aller à 3h du mat, c'est une super ambiance sur les urgences. Et donc il m'a filé ce truc-là, je l'ai pris, je l'ai partagé, je l'ai dit, j'avais vraiment mal, c'était réel. Mais par contre, j'avais complètement oublié l'effet du produit. Et je me souviens que quand j'ai senti ce truc, alors que j'étais dans un moment où j'allais vraiment pas bien, c'était mais magique. C'était comme quand j'avais 15 ans, tout à coup, j'avais plus aucun problème. Tout allait très bien. Et j'ai gardé ce truc-là dans ma tête. J'avais oublié la puissance du produit, quoi, en fait. Et quand j'ai rechuté, c'est longtemps après, hein. C'est un an et demi, deux ans après. Dans ce moment où je me sentais profondément humilié avec ma petite blouse bleue chez les orphelins. Ça a duré un peu moins de 3 mois, et puis je suis revenu, parce que j'ai assez vite compris que ça marcherait pas, quoi. Et puis, c'était un truc de survie au quotidien pour traverser ce truc-là, dès que j'en ai parlé. Et je me rappelle, j'ai réussi à arrêter le produit tout seul, et j'ai pas réussi à le dire tout de suite en réunion. C'était quand même un peu au-dessus de mes forces. Et puis un jour, il y a un pote, je me suis mis à refaire plus l'étudiant en musique à ce moment-là, à remettre un peu le métier sur l'ouvrage et tout ça. Et je me rappelle, un pote du programme m'appelle ce jour-là, il me dit « il faut absolument que j'aille à Réunion, j'ai un truc super important à dire ». Et là, je me suis dit « ah, peut-être moi aussi ». Donc je dis « ok, rendez-vous à telle réunion ». Et je me suis dit « bon là, c'est le soir, c'est un signe, il faut que je lâche ». Et j'avais déjà... un mois clean, j'avais déjà arrêté, mais je vous jure, c'était beaucoup plus simple d'arrêter à ce moment-là que de dire que j'avais rechuté. Et évidemment, j'arrive en réunion, le mec en question ne se montre pas. Il m'a planté, il n'est pas venu à la réunion. Et toute la réunion, je levais la main dès le début, toute la réunion, j'avais hyper peur d'avoir la parole, je lâche mon truc, et je me souviens du soulagement que c'était... De vous le dire, de le partager. Mais c'était physique, quoi. Alors que j'étais terrifié depuis un mois, je me réveillais tous les matins en disant « putain, il faut que je le dise. » Et là, c'était genre « ah !» Bon, et en gros, ce deuxième clean, il part de ce truc-là, quoi. Donc, ouais, je peux dire que c'est une seconde capitulation. Et alors ensuite, je me suis évertué de façon un peu mécanique. J'ai changé de parrain, j'ai un peu changé de façon de faire, et j'ai même essayé au début de faire le super élève, ce que j'avais jamais fait avant, puisque je branlais rien à part être clean. Et de façon un peu extrême, j'ai pris du service dans une ASL, j'ai fait le corps pendant 5 ans, je me suis mis à écrire mes étapes en répondant aux questions tous les jours. Tout. Aujourd'hui, j'ai plus ce rythme. Hein. Je l'ai eu 3 ans, mes 3 premières années de ce deuxième clean. Mais ça a été extrêmement efficace. Ça a hyper simplifié tout mon rapport au programme. Le rapport au... C'est comme si toute une part de mon ego s'était enlevée de cet endroit-là. C'est plus là que j'allais me construire. C'était juste devenu, mon outil pour vivre avec vous, avec mes enfants, ma meuf, mes amis. Et voilà, donc c'était vraiment une seconde capitulation et ça continue encore aujourd'hui. Même si je n'arrive plus à faire... comme j'avais le feu de la conso pas loin et que j'avais eu très peur, au début, j'étais vraiment lancé sur une énergie de... J'avais peur d'y retourner, quoi. J'avais peur que ça recommence. Donc, j'étais hyper bon élève, hyper motivé. Bon, j'ai plus cette énergie-là. Mais je suis engagé quotidiennement dans le programme. Les filleuls, je ne me rendais pas compte à quel point ça aide d'avoir des filleuls. Mais à quel point ça va être moi. Hein. J'espère que je les ai d'eux. Je pense que j'y arrive à peu près. Mais c'est vraiment le truc, maintenant, si je puis m'exprimer ainsi, je suis pris en sandwich, quoi. Entre mon parrain et mes filleuls, quoi. Il y a un chapeau et un soutien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vachement plus simple, parce que du coup... le fait de ce qu'on appelle vivre le programme, c'est un mode de vie. Quand on a ces relations-là avec les filleuls et le parrain, du coup, c'est assez simple parce que ça se fait naturellement. Les filleuls t'appellent, donc toi, évidemment, tu finis par appeler ton parrain. Quand tu as dit 15 fois à ton filleul qu'il t'appelle plus régulièrement, tu te dis, mais peut-être qu'il faudrait que moi j'appelle mon parrain aussi. Enfin, je veux dire, évidemment, le truc se construit comme ça et c'est vachement plus simple. Et ça repose moins sur un truc de ma volonté, de vouloir absolument. Voilà, après, pour gagner, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné tout un tas de trucs. Ils ne sont pas évidents à... Déjà, une des raisons qui avait commencé cette espèce de truc de dépression avant ma chute, c'est que j'avais passé... Il y a 15 ans à peu près, je me suis dit, il faut que tu deviennes enseignant en musique, en écriture, et je suis déjà allemand, en conservatoire. Mais pourtant j'ai fait le conservatoire enfant, jeune et tout ça, j'ai fait des études musicales, mais je n'avais pas passé les diplômes pour être prof. Et donc j'ai décidé de passer le concours pour être prof, pour pouvoir travailler en conservatoire. Putain. Je vais être obligé de montrer mon cul alors finalement. Et je l'ai raté. Je l'ai raté, mais en plus en étant un peu humilié. Il y avait un travail écrit et tout avec un jury. Et je me rappelle, il y avait une meuf de Sciences Po. Je suis dysorthographique, j'écris très mal, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Je suis loin d'être con, hein, mais je suis dysorthographique. Et justement, elle a tout de suite relevé le truc, la meuf de Sciences Po, dans le jury. Après, elle a lu le truc, elle m'a dit. Mais comment on peut affirmer de telles choses avec un tel aplomb, avec un orthographe pareil, monsieur? Bon, et tout ce moment, je l'ai très très mal vécu, parce que moi, j'y suis allé, j'étais sûr que ça allait se passer comme ça. J'étais vraiment... Je pensais que je l'aurais du premier coup, ce concours. Pareil, c'est un truc que j'ai absolument pas partagé. Et en plus, même du côté de la fraternité musicale, j'ai demandé de l'aide à aucun collègue. Et j'ai même pas demandé à des potes qui l'ont passé. J'ai vraiment fait tout seul dans mon coin. Ce concours, je l'ai repassé tout de suite, très vite après être revenu de ma rechute à mes 2 ans clean. Et j'ai fait exactement ce que j'avais fait dans le programme. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai appelé tous mes potes profs, j'ai dit comment on fait pour avoir ce concours. J'avais essayé de le passer en solo. Non, j'avais engagé une contrebassiste pour un morceau que je ne connaissais pas, alors que je connais plein de monde. Donc là, j'ai appelé tous mes potes musiciens, j'ai monté un truc, ça s'est passé, effectivement. Bon. Mais j'étais dans ce truc un peu d'orgueil, un peu... Vraiment, maintenant, je le vois comme ça, c'est un peu un truc d'adolescent attardé. C'est-à-dire, t'es seul contre tous, moi, ça me permettait de penser que j'étais vraiment un génie ignoré et que le sort s'acharnait sur mon destin tragique. Mais en fait, je faisais absolument rien de concret, finalement, pour faire en sorte que le truc soit un peu plus doux et un peu plus simple et un peu plus cool. Maintenant, je trouve que c'est il n'y a pas longtemps, hein. J'ai 55 ans, c'est quand j'avais 40 ans, en gros. C'est il y a 15 ans, après. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un comportement... Je vois mon fils, qui a 19 ans, bah lui, il se comporte comme ça. Parfois, je reconnais ce pattern dans ses comportements. Quand il n'a pas envie de faire un truc, il dit qu'il est victime, quoi, en gros, de quelque chose. Et ça... Voilà, je suis obligé de vous dire ça, parce que là, ça, le temps, c'est quoi? Il faut que, j'avance.
5 minutes.
Ok. Évidemment, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive même assez régulièrement de parler de cette rechute en réunion. Donc, je vous le dis, je ne vous suggère absolument pas la rechute comme outil thérapeutique, les gars. C'est pas l'idée du truc. Hein. Il se trouve que moi, j'ai rechuté en ayant pas mal de temps, et que ça m'a permis de capituler plus. Voilà, c'est la réalité. Par contre, je ne vais pas romantiser le truc, quoi. Beaucoup de gens, vous le savez bien, ne reviennent pas de rechute. Voilà. Je vais conclure en disant que maintenant, je suis moins obsédé par ma place sociale dans le taf, par la réussite professionnelle, on va dire. C'est moins le truc qui me... Je ne vous cache pas que prof au conservatoire, j'adore ça. Ça me rend complètement dingue. Là, je commence à me calmer. Je fais ça depuis 10 ans. Là, ça y est. Mais pendant 10 ans, j'étais vraiment... Bon, finalement, j'ai retrouvé les mêmes trucs un peu égotiques que quand j'étais compositeur. C'est-à-dire que pendant 5 ans, je voulais être le prof exceptionnel que tout le monde aime au conservatoire. Ça a très bien marché. Bon, juste, ça prend un peu trop d'énergie et de temps. Par exemple, pour mes enfants, ma meuf, tu vois, ils disent coucou. Je fais encore des charrettes pour faire des arrangements pour les élèves où je me couche à 4 heures du mat, 2 soirs de suite avant d'aller en. Bon, voilà, ça. C'est comme ça, je trouve aussi mon compte là-dedans. Bon, là, j'arrive à un nouveau truc de ma vie avec le taf, puisque j'en parle. Il faut que je fasse des nouvelles choses aussi. Il faut que j'ouvre un peu plus. Mais quand même, ça a été... Et j'adore le truc de transmission avec les mômes. Et en plus, moi, j'ai des grands mômes. J'ai des mômes de... Les plus jeunes ont 13, 14. Les plus vieux ont 25. Et quelques adultes. Et évidemment, je suis hyper dans mon élément. C'est vraiment l'ado attardé, quoi. Je me sens hyper bien avec eux. Mais c'est comme si c'était l'adolescence heureuse que j'avais pas eue quand j'étais ado, quoi. C'est comme si là, je pouvais... Et puis après, quand je fais des grands concerts, où il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers en big band, on fait jouer tout, c'est vraiment le pied. C'est vraiment un moment vachement agréable pour tout le monde, hyper satisfaisant. Et un truc de transmission. Voilà, il faut que j'arrête. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis en 8e étape, j'ai eu 10 ans, j'aurai 11 ans en janvier.
Bravo.
Je me suis rendu compte ces derniers temps, moi j'ai eu mes enfants clean, et je les ai vraiment élevés avec cette espèce de conscience de ne pas reproduire ce que j'avais vécu dans mon enfance. Plus ça va, plus je vois à quel point je reproduis malgré moi. c'est un peu terrifiant, mais comme un peu tout le reste, ça se passe mieux quand je capitule, quand je m'en rends compte, et que plutôt que quand je fais, mais non, pas du tout, moi c'est très très différent, je sais pas. Alors évidemment, je ne vous dis pas que je reproduis exactement les mêmes trucs, mais moi j'ai été livré à moi-même, enfant, j'ai eu aucune limite, je me démerdais très bien. Donc c'est vrai que inconsciemment, je pars toujours du principe qu'il se démerde très bien. Donc, tout... Et en fait, ils ne se démerdent pas très bien du tout. Ils ont vraiment besoin de cadres, ils ont vraiment besoin de... Et bon, ça fait plusieurs années que je bosse activement à... pas à changer moi, à changer ce que je fais, à changer comment je suis parent. Moi, je pense que je serais toujours pareil. Instinctivement, je penserais que... Ben normalement, tu sais te faire à bouffer à 10 ans, quoi. Bon, ben, non, mes enfants, ils ne sont pas du tout comme ça. C'est moi qui fais la bouffe. Ils sont incapables de se faire à bouffer à 19 ans et 13 ans. Bon. Voilà. Après, il y aurait plein d'autres trucs à dire, mais là, c'est bon. On a fait le tour, je pense. Je vous remercie. Je vous rappelle que le premier voyage et le second voyage de Clean n'auraient pas pu se faire sans vous. Je veux dire, c'est mathématique, quoi. Il n'y a pas de... Et je connais des gens qui ont arrêté de consommer sans programme, sans fraternité. J'en connais deux. Et c'est des amis proches hein, avec qui je consommais quand j'étais jeune. Franchement, ça ne me fait pas du tout envie leur existence. Hein. Vraiment, je veux dire, c'est réel. Je ne vous dis pas ça. Je n'essaie pas de me gosser ou de... Ce n'est pas une façon de positiver la chose de façon forcenée. Vraiment, leur vie ne me fait pas envie. Et j'ai beaucoup d'affection pour eux. Hein. Et je... Voilà. Et tout ce qu'on développe ici, relationnellement aussi, c'est vachement utile dans notre vie. Je peux pas dire et dans à tous les plans quoi. Il y a pas que le programme lui-même, il y a aussi le truc de cette vie communautaire un peu compliquée où on est tous très très différents et on doit composer les uns avec les autres. Bon. Ça aussi c'est un peu une école. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Sarah.